Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 21h à Tunis.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, la Tunisie, un nouveau gouvernement vient d'être nommé 11 semaines après l'éviction du précédent.
Et puis en Irak, les premières tendances des législatives d'hier se dessinent. Mais le scrutin a été marqué par un très fort taux d'abstention. Analyse à suivre.
Ce journal nous emmènera également en Autriche, où l'ancien ministre des Affaires étrangères vient d'être investi comme chancelier. Il succède à Sébastien Kurz, qui a démissionné ce week-end.
Et puis en France, la droite se prépare à la présidentielle d'avril 2022. Xavier Bertrand participera à la primaire du parti Les Républicains début décembre, un parti qu'il avait pourtant quitté en 2017.
Le journal en français facile.
La Tunisie a donc enfin un nouveau gouvernement, Clémentine.
Oui, une équipe mise sur pied 11 semaines après le coup de force du chef de l'État, le président Kais Saied, s'est arrogé les pleins pouvoirs et a évincé, mis de côté, le précédent cabinet ministériel. Alors à quoi ressemble ce nouveau gouvernement? Qui sont ses ministres? On fait le point avec Amira Souilem à Tunis.
Dirigée par Najla Bouden, la nouvelle équipe gouvernementale compte 25 membres, dont 9 femmes. Parmi eux, Semir Saïd, un ancien du secteur bancaire qui hérite du ministère hautement important dans un pays en crise, de l'économie. Des portefeuilles d'envergure ont été confiés à des proches du président. C'est le cas de l'avocat Taoufir Sharfeddine, nommé à l'intérieur. Il avait déjà occupé ce poste quelques mois, entre 2020 et 2021, avant d'être limogé par Hichem Mechichi, l'ancien chef du gouvernement, un temps en guerre ouverte avec le président. Même scénario pour Leila Jeffel, ancienne ministre et conduite par Mechichi, cette magistrate qui a la confiance de Kais Saied devient ministre de la Justice. Une équipe qui, en plus de la chef du gouvernement, géologue de formation, compte d'autres universitaires, à commencer par le ministre de la Défense, celui des Technologies, ou encore le ministre de la Santé, mais aussi celui de la Jeunesse et des Sports. Le penchant du président tunisien pour les universitaires semble donc se vérifier aujourd'hui, une tendance qui avait fait dire à certains Tunisiens que leur conseil des ministres allait désormais avoir des allures de conseil de classe. Amira Souilem, Tunis, RFI.
En Irak, les premières tendances se dessinent après les législatives anticipées d'hier.
Pas encore de résultats officiels, mais le courant de l'influent leader chiite, Moqtada al-Sadr, est donné favori. Il s'est d'ailleurs revendiqué première force politique au sein du Parlement. Mais ce qu'il faut aussi et surtout retenir de ce scrutin, c'est le taux d'abstention record. Seuls 41% des électeurs sont allés voter, selon le taux de participation préliminaire donné par la commission électorale. C'est donc encore moins que les 44,52% enregistrés en 2008. Alors pourquoi les électeurs ont-ils boudé les urnes? Écoutez l'analyse d'Asni Abidi. Il dirige le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Le taux d'abstention intervient dans un contexte où une grande partie de la jeunesse irakienne, mais de plusieurs figures du mouvement social, ont appelé à un boycott massif des élections. Le deuxième point qui a favorisé ce taux record d'abstention, c'est bien sûr la stagnation de la vie politique et la campagne électorale qui est une campagne morose, terne, et qui a été marquée bien sûr par une loi électorale qui a favorisé plutôt des individus, donc des listes uninominales. Et le troisième point qui est à mon avis important, il y a une certaine prise de conscience de la part d'une majorité des Irakiens que tant que cette offre politique ne change pas, le système politique non plus ne va pas changer avec cette nouvelle élection.
À qui va bénéficier cette abstention record ?
La grande question aujourd'hui, c'est que l'Iran sortira vainqueur, c'est-à-dire que la crainte de voir les Iraniens consolider leurs relations avec les partis traditionnels en Irak va plutôt se renforcer.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman, et les autorités irakiennes ont par ailleurs annoncé aujourd'hui la capture de Sami Jassim, un haut dirigeant de l'organisation terroriste État islamique. Il est considéré comme un proche collaborateur du chef de l'EI Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi.
Le Hezbollah libanais réclame un nouveau juge pour l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth.
Oui, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a accusé ce lundi le juge Tarek Bitar d'avoir des objectifs politiques. Il appelle à son remplacement par un magistrat honnête et transparent. Le juge Tarek Bitar est chargé de l'enquête depuis février. Il est dans le collimateur de nombreux responsables politiques pour avoir convoqué l'ex-premier ministre Hassan Diab et 4 anciens ministres. Il a d'ailleurs été forcé en septembre de suspendre son enquête pendant une semaine en raison d'une plainte déposée contre lui par un ex-ministre, Noad Al-Mashnouk, soupçonné d'implication dans le drame et réclamant le dessaisissement du juge. Des centaines de Libanais en colère étaient descendus dans la rue pour protester contre cette suspension de l'enquête.
Le journal en français facile.
En Autriche, le nouveau chancelier a prêté serment.
Il s'agit d'Alexander Schallenberg, jusque-là ministre des Affaires étrangères. Il a été investi ce lundi, soit 2 jours après la démission du chancelier conservateur Sebastian Kurz, visé par une enquête pour corruption. Le portrait du nouveau chancelier autrichien est signé Isorias.
Ce diplomate, parfaitement francophone, fils d'ambassadeur, accède à 52 ans à la chancellerie. C'est les Bisagate qui propulsent Alexander Schallenberg sur le devant de la scène en 2019. En effet, ce scandale de corruption a provoqué la chute de la coalition entre conservateurs et extrême droite et la mise en place d'un gouvernement d'experts au sein duquel il devient ministre des Affaires étrangères. Il sera le seul rescapé de ce gouvernement et gardera son poste lorsque Sebastian Kurz redeviendra chancelier en janvier 2020, en s'alliant cette fois aux Verts. Il est considéré comme un fidèle de Sebastian Kurz, lui devant une partie de sa carrière et partageant beaucoup de ses positions, notamment sa vision très stricte de la politique migratoire. C'est cette proximité qui inquiète aujourd'hui l'opposition, car Sebastian Kurz, s'il n'est plus chancelier, reste chef du Parti conservateur et du groupe parlementaire et pourrait ainsi continuer d'influencer la politique autrichienne. Isorias, Vienne, RFI.
Et Michel Linhart, jusqu'à présent ambassadeur d'Autriche en France, a lui aussi été investi ce lundi ministre des Affaires étrangères.
La Hongrie et la Pologne font front commun devant la justice de l'Union européenne.
Les deux pays contestent un mécanisme qui pourrait les priver de fonds européens. Il s'agit d'un dispositif inédit. Il permet de suspendre ou de réduire le versement de fonds européens à un État si celui-ci viole les principes de l'État de droit, portant atteinte ou risquant de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE.
Et puis en France, Xavier Bertrand est de retour dans le jeu de la primaire à droite.
Oui, après des mois à faire cavalier seul, il a fini par céder. Xavier Bertrand a annoncé aujourd'hui qu'il participerait au congrès de son ancien parti, les Républicains. Un congrès qui se tiendra le 4 décembre et qui permettra aux militants de choisir leur candidat pour la présidentielle 2022. Xavier Bertrand se soumettra donc au vote de 80 000 militants face à Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin. Xavier Bertrand est pour l'instant le mieux placé dans les sondages parmi les candidats de la droite, mais la compétition s'annonce difficile car de nombreux militants ne lui pardonnent pas d'avoir quitté le parti en 2017. On l'écoute.
Je participerai à ce congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. Parce que ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre. Mais vous savez, la solution de facilité, ce n'était pas ça. La solution de facilité, c'était de faire cavalier seul, avec des sondages, des enquêtes d'opinion, qui sont certainement les plus claires, qui me placent en tête. J'ai pas voulu faire ce choix, parce que dans mon ADN, il y a le rassemblement et il y a l'union. Je veux rassembler, Monsieur Boulot, l'ensemble des Français. Alors il faut que je commence par ma famille politique. Et encore une fois, je sais bien que certains me disent « faut pas y aller, ça va être compliqué ». Donc il fallait se tenir à l'écart. Non, parce que y aller en solitaire, ça veut dire plus tard gouverner en solitaire. Vous avez vu ce que ça donne là, de diriger un pays en solitaire, comme c'est le cas depuis 4 ans et demi. Alors moi, je ne vais pas pratiquer comme ça.
Xavier Bertrand chez nos confrères de TF1.
Et puis la France dit stop à une partie des emballages plastiques.
À partir du 1er janvier 2022, de nombreux fruits et légumes ne pourront plus être vendus sous plastique, annonce faite par le gouvernement. Seuls les plus fragiles, comme les fruits rouges, bénéficieront d'une tolérance jusqu'en 2026. Cette mesure devrait permettre d'éviter plus d'un milliard d'emballages plastiques inutiles chaque année, selon le gouvernement.
Thank you.
demain sur RFI.